Nous allons tout de suite enchaîner. Et ben, nous avons consacré ces journées à l'actualité de la pensée de Françoise Dolto. Cette actualité a une dimension internationale. J'en ai évoqué un des aspects tout à l'heure. Nous avons décidé de poursuivre la réflexion relative aux enjeux politiques et sociaux de cette pensée, commencée tout à l'heure donc avec la précédente table ronde. Et nous avons décidé de poursuivre le travail en demandant à 4 amis venus du Brésil, du Québec, du Maroc et du Portugal de nous apporter leurs témoignages justement à propos de cette actualité. Alors nous allons procéder de la manière suivante. Ils vont chacun se présenter d'abord et puis nous ferons part tout de suite après de leurs commentaires. Voilà. Et puis après, nous aurons le temps de discuter tous ensemble et vous pourrez leur demander des précisions. Alors, on va commencer par les dames, c'est ça ? Il y en a deux. Alors, on va... Richard T.
D'ailleurs. Je suis psychanalyste, professeure à l'université, et je crois que j'ai été invitée par Claude Chauder pour faire partie de cette table ronde à ses doubles titres, comme professeure à l'université où j'introduis la référence à Françoise Dolto d'abord dans l'enseignement théorique et ensuite dans la pratique par la supervision des stages cliniques, et comme l'une des fondatrices d'une structure type Maison Verte qui fonctionne à Montréal depuis maintenant 17 ans. Vous m'excuserez, je vais lire mon texte pour ne pas prendre une minute de plus parce que notre temps est compté, donc ça va être mieux. Donc je suis aussi invitée à titre de représentante de l'Amérique du Nord. Mais je vous détrompe tout de suite, le Québec, ce n'est pas tout à fait l'Amérique, et Montréal, ce n'est pas tout à fait le Québec, je m'en expliquerai. À Montréal, au Québec, en Amérique, les approches des problèmes qui apparaissent pendant la petite enfance sont dans leur immense majorité dégoulinantes de bonne volonté et facilement répressives. En ce qui concerne l'intervention auprès des bébés, les concepts d'attachement et des stimulations précoces tiennent le haut du pavé. Cette dernière trouve son pendant dans l'activité diagnostique qui multiplie à l'infini le nombre des enfants considérés comme hyperactifs, parfois médicalisés dès l'âge de 2 ans. Les incohérences dans l'appréhension des questions familiales témoignent d'une grande confusion au sein de laquelle diverses tendances idéologiques s'affrontent. L'enfant en est le grand perdant. Jamais ces difficultés ne sont appréhendées de son point de vue. Dans les cas des problèmes majeurs, les diagnostics des troubles envahissants des développements, on ne parle plus de l'autisme, c'est un mot qui est interdit, éliminent toutes les autres modalités diagnostiques et instaurent l'intervention cognitivo-comportementale comme seule approche légitime. Il faut dire qu'au Québec, les soins dans les systèmes publics de santé ont récemment été administrativement orientés vers les traitements centrés sur les symptômes, ce qui comprend la division des services pédopsychiatriques en services spécialisés en divers symptômes. Si l'idéologie de soins issue des théories comportementales et cognitivo-behaviorales qui nous vient de l'autre côté de la frontière a effectivement les vents en poupe, et si la base des interventions auprès des familles de tout-petits est pratiquement toujours de nature éducative pour les mères ou dite de stimulation précoce pour les enfants, il reste néanmoins à Montréal des petits bastions de résistance qui s'opposent à l'approche de la prévention et des soins qui domine sans conteste sur notre continent. Il faut dire qu'on ne rencontre jamais là-bas des grands mouvements d'opinion ou de résistance comme cela a lieu ici. C'est-à-dire, M. T, il n'est pas connu ni discuté par des intervenants qui pourtant sans doute appliquent déjà certaines de ses idées. Les débats d'idées ne font pas légion non plus. Mais tout de même, je fais partie d'une petite minorité des professeurs psychanalystes et mon enseignement à l'université est possible. Grâce à un concours des circonstances et à la ténacité de quelques-uns, une structure type Maison Verte, la Maison Buissonnière, non seulement a vu le jour, mais se développe. J'appartiens aussi à l'Association québécoise de santé mentale des nourrissons, où la psychanalyse est tolérée et où je côtoie les collègues pédopsychiatres qui ont refusé de se soumettre au fonctionnement hospitalier centré sur le traitement des symptômes. Ceci aussi est spécifique à Montréal. Le milieu y est devenu si petit que malgré la propension des psychanalystes à se faire les guerres, toutes les orientations sont amenées à se tolérer. À mon sens, ce sont justement les scissions entre les psychanalystes et leur propension à s'exclure de dialoguer avec les autres disciplines qui sont en partie responsables de notre situation actuelle. Mais en revenant à mon propos, d'abord l'université. J'y côtoie des étudiants qui ont faim. Faim de pouvoir réfléchir, de pouvoir poser la question « pourquoi ?», insatisfait de l'enseignement qui n'y répond pas. C'est en partie à ces étudiants que l'on doit la survivance de la psychanalyse dans notre université. Il y a 18 ans, ils ont ouvert avec moi un petit centre de documentation et des activités qui, dans les débuts, ont permis de nouer des complicités et des solidarités entre les étudiants de trois cycles et les professeurs. Quelques années plus tard, c'est ce centre qui a servi de base à la défense de la pluralité des pensées au sein du département de psychologie. Les étudiants et les professeurs ont alors obtenu le maintien de l'enseignement minimal basé sur la psychanalyse et sur la psychologie phénoménologique au premier cycle d'études. Ce centre est actuellement financé par l'université et a perdu son caractère militant. Cela laisse signe que la nécessité s'en fait momentanément moins sentir. Bien que notre département soit le seul à offrir un programme complet d'enseignement de la théorie psychanalytique, nous sommes les seuls à l'offrir, mais un tel programme s'est petit à petit construit pour les cycles d'études supérieures. C'est du centre de services psychologiques, qui est un lieu de stage, d'où la psychanalyse est presque absente, où la psychanalyse d'enfants n'est représentée que par moi et maintenant par une autre collègue, que l'appel vient actuellement. Certains étudiants en psychologie de développement ressentent un vide clinique et commence à réclamer une formation plus adéquate. Par ailleurs, un regroupement des professeurs en lien avec l'Association des psychothérapeutes d'orientation psychanalytique maintient des activités parallèles de conférences, films et activités diverses qui donnent l'impression que la psychanalyse est vivante. Il faut dire que la psychanalyse d'enfants, boudée souvent par les psychanalystes eux-mêmes, y occupe peu de place. Maintenant, la maison buissonnière, comment survit-elle? Ben, revenons à Montréal. C'est une ville cosmopolite où se croisent diverses influences européennes et américaines. Les groupes très, très restreints, mais bien actifs des psychanalystes et des jeunes psychologues québécois qui s'intéressent à la psychanalyse est régulièrement renforcé par l'arrivée d'immigrants francophones qui s'installent majoritairement à Montréal. La maison buissonnière s'est constituée à l'image de la ville. Son fonctionnement repose sur les épaules d'un groupe d'accueillants constitué de Québécois travaillant ensemble depuis de nombreuses années, parfois depuis le début, auxquels se sont joints progressivement de nouveaux arrivants d'origine très diverse, intéressés par le travail de prévention auprès des enfants et en quête d'un groupe d'appartenance. Ces immigrants, souvent très bien formés, rencontrent à leur début beaucoup de difficultés pour faire reconnaître leur formation et obtenir leur permis de pratique auprès de l'Ordre psychologue du Québec. Les conditions de travail qu'ils rencontrent par la suite dans les institutions de soins répondent rarement à leurs principes ou à leurs aspirations professionnelles. Ils se joignent là à nous. Cet aspect singulier de la constitution de notre groupe nous a permis à nous développer. Il tranche notamment sur les possibilités de développement de la maison ouverte de la ville du Québec, où tant les psychanalystes locaux que les nouveaux arrivants se font beaucoup plus rares. Et il me semble qu'actuellement, il serait impossible d'ouvrir une structure semblable aux États-Unis, non seulement parce que la pensée de Françoise Dolto y est complètement inconnue, mais aussi parce que la psychanalyse d'enfants, malgré son apparente présence au sein d'organisations comme l'Association mondiale de la santé mentale des nourrissons, la psychanalyse à l'intérieur de cette organisation est à toute fin de pratique inexistante. En fait, à part quelques-uns, Au lieu d'investir massivement ce genre d'associations, les psychanalystes les fuient et se retrouvent souvent entre eux. Alors, l'héritage de la pensée de Françoise Dolto dans tout cela. Ma connaissance de ces idées est venue d'abord de la fréquentation de ses écrits et de ceux qui se considèrent comme ses élèves. Je me suis approprié lentement sa pensée en l'éprouvant. Il faut peut-être aussi le dire en l'enseignant. Il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que d'avoir à expliquer à quelqu'un ce qu'on pense avoir saisi. Cette pensée, une fois assimilée, exerce l'attrait de l'évidence. À la Maison Buissonnière, où diverses orientations psychanalytiques sont représentées, seuls quelques-uns d'entre nous ont adopté l'image inconsciente du corps comme outil principal pour penser sa pratique clinique avec les tout-petits. La référence aux conceptions de Françoise Dolto reste néanmoins bien notre principe unificateur. L'unité de notre groupe est acquise grâce à un processus long et laborieux. Les modalités d'accueil, dans tous les détails qui les composent, et la théorie qui soutient l'approche pratique, sont remises sur les métiers et rediscutées avec l'arrivée de chaque nouvel accueillant. Cette possibilité de tout questionner, offerte à chacun, accorde à tous un temps nécessaire pour s'approprier nos principes de fonctionnement. J'imagine que notre façon de faire n'aurait pas déplu à Françoise Dolto, puisqu'elle a tenu à ne pas faire école. Si cette procédure commence à être lourde pour un groupe de plus en plus nombreux d'accueillants, qui, fort de l'expérience des années de travail en commun, souhaiteraient pousser plus loin et plus vite la réflexion, outre l'effet que nos statuts garantissent à chacun cette possibilité de questionner l'ensemble de notre pratique, ce mode de transmission orale semble utile. Ces apprentissages en marchant s'est actuellement doublé de la question de sa transmission vers l'extérieur. Depuis l'année dernière, nous avons entrouvert la porte à des stagiaires qui ne resteront pas nécessairement avec nous comme accueillants. Si d'une part leurs questions ne peuvent que stimuler nos réflexions, le type d'apprentissage qui leur est offert est le même que pour ceux qui se joignent à nous comme collaborateurs. De cette façon, la parole du maître ou la parole écrite n'est jamais une parole révélée. Elle est conquise après avoir été examinée et surtout expérimentée. Voilà. Cet exposé met en lumière une sorte de tactique qui m'est devenue consciente au fil des ans. Progresser à petits pas, reconquérir le terrain perdu, s'y installer, se poser de l'intérieur en collaboration avec quelques-uns qui partagent le même désir de faire survivre l'idée que l'être humain est un être de désir et de paroles. Miser sur les étudiants et des jeunes psychologues ou éducateurs qui en ont marre de se transformer en machines à tester et qui souhaitent sortir des chemins qui de plus en plus leur semblent trop battus. Ainsi, chez nous, la psychanalyse est enseignée à l'université par moi, mais aussi par une collègue qui enseigne aux éducateurs en garderie, en crèche, dans le cadre de l'éducation permanente. Il ne reste pas moins que les écrits de Françoise Dolto et l'expérience de la Maison Verte ont changé en France les paysages de l'intervention auprès des enfants tout petits, même si les nuages s'accumulent sur vos têtes. Par contre, notre expérience de la Maison Buissonnière comme celle de la Maison Ouverte, aussi bien que l'enseignement clinique de quelques rares collègues et de moi-même, reste isolée en Amérique du Nord. À l'université, c'est la réponse des étudiants à notre enseignement qui assit la pertinence de notre persévérance. À la Maison Buissonnière, notre légitimité sociale s'est construite sur la reconnaissance de notre utilité pour leurs enfants et pour eux-mêmes par ceux qui nous visitent, 2319 visites en 2007. Aussi, est-ce pour les participants du Québec, dont je suis à la fois une source de plaisir et de réassurance de nous trouver ces quelques jours dans un milieu dont les expériences et les théorisations se rapprochent des nôtres. Je remercie Catherine Dolto et les organisateurs pour avoir organisé ces journées d'hommage à la pensée de Françoise Dolto. Je me permets peut-être aussi à émettre un souhait qu'il recommence ce travail gigantesque pour continuer à nous réunir et pour soutenir des débats vigoureux dont se nourrit une théorisation bien vivante.
Merci Irène. On passe tout de suite la parole à Louli.
Bon. Premièrement, je voudrais remercier tous ceux qui ont invité la Maison de l'Arbre à être ici, si près de Françoise Dolto. Ensuite, je voudrais vous demander de la patience avec mon français, qui est comme vous entendez. Ce que je vais vous présenter, c'est la Casa da Árvore, Maison de l'Arbre, un travail qu'on fait dans le favela de Rio de Janeiro, sous l'inspiration de Françoise Dolto. Nous sommes un projet qui a commencé à l'université et qui, en raison de financement, est devenu une ONG. 43 personnes y travaillent, dont la plupart sont de jeunes psychologues prêts à de nouvelles découvertes. Nous avons 3 espaces d'action et sommes présents dans 2 crèches communautaires dans des favelas. La première Casa da Árvore a été fondée en 2001. Bien que nous soyons très liés à l'univers de la psychanalyse, le choix de travailler dans des favelas fait déjà ressortir la dimension politique et sociale de notre action. Dans la favela, nous avons affaire à des enfants soumis à une vie quotidienne de violence armée et d'exclusion sociale et dont le sort semble scellé par l'abandon dans lequel la société brésilienne les laisse. Rio de Janeiro est une ville divisée entre ceux qui sont de l'asphalte, c'est-à-dire des quartiers aisés et de classe moyenne, et ceux qui sont de favelas. Entre ces 2 camps, les préjugés et la méfiance dominent. Dans l'imaginaire typique des classes moyennes auxquelles tous les accueillants appartiennent, il y a d'un côté ceux qui sont de possibles victimes et d'autres ceux qui sont des potentiels malfaiteurs. Ce n'est pas sans peur que les travailleurs de la Casa da Árvore franchissent cette frontière à la recherche d'un champ symbolique à partager capable d'assouplir la raideur des entités produites dans cet univers violent qui nous endurcit à tous, même s'il s'impose de manière inégale aux différents couches de la population. À la Casa da Árvore, on a pour présupposé que travailler avec des subjectivités, c'est travailler avec l'expression dans le monde où elles se construisent, dans les corps où elles s'incarnent. C'est travailler dans l'univers imaginaire, culturel, social, où elles trouvent leur forme d'expression, d'action sur le monde, de relations avec l'autre. Alors, notre proposition est de créer des espaces qui favorisent le développement du potentiel créatif des enfants, aussi bien que le répertoire de conduite, enrichissant ainsi les ressources psychiques et leur capacité d'échange. En vue de cela, on court plusieurs risques. Occuper le lieu de pouvoir et de savoir qui nous est accordé par les privilèges sociaux. Réduire au psychologique ce que peut être une expression de création ou une défense légitime, stratégie de survivance adéquate face à une société excluante. Et on risque encore, devant une situation sociale écrasante, de devenir sourde aux particularités et à l'expression subjective de chacun des petits citoyens que nous fréquentons. À la Casa da Árvore, nous accueillons des enfants jusqu'à 12 ans. Le moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un responsable qui, en général, est un autre enfant un peu plus âgé. Au début, nous avons essayé de reproduire les expériences qui existaient déjà, mais les mères ne sont pas venues. Que ce soit par manque de temps ou pour des raisons culturelles, elles ne se sont pas venues. Et puisque les enfants venaient, nous avons changé notre proposition. Les favelas de Rio, et j'imagine qu'un Européen est plutôt mal à les comprendre, sont des espaces qui échappent au contrôle de l'État. Dominé par le trafic de drogue, n'importe quelle intervention dans leur vie quotidienne, même s'il s'agit d'amélioration pour la vie de chacun, dépend de l'autorisation de ses pouvoirs parallèles. Et la police ne fait rien contre cela. Les actions policières sont rares, violentes contre la population, laquelle a plus peur de la police que des malfaiteurs, et n'ont jamais pour but de démanteler ses pouvoirs. Les guerres entre factions criminelles sont fréquentes et les pouvoirs publics n'interviennent pas. Face aux inégalités et à l'abandon, l'identification avec les trafiquants organisés et puissants peut très facilement s'imposer comme une solution de vie pour les enfants des favelas. Socialement invisibles, ils deviennent pourtant visibles avec une arme à la main. En raison du peu de temps dont nous disposons, on ne parlera aujourd'hui que d'une seule maison, celle située sur la colline du Chapéu Mangueira, dans la zone sud de la ville, c'est-à-dire dans la partie la plus riche. Ce choix implique l'exclusion de plusieurs nuances dans notre travail, car notre proposition connaît des variantes suivant les caractéristiques locales de chaque favela. Dans chaque maison, les questions transférentielles opèrent de façon diverse. Si bien que dans la maison de Niterói, par exemple, on a pu conserver la proposition d'accueillir les jeunes enfants accompagnés de leurs responsables, chose qui n'a pas été possible ailleurs. Je parlerai de deux rencontres entre deux garçons et moi. Ils incarnent, chacun à sa manière, toute la conséquence du cadre que j'ai décrit. Le premier garçon s'appelle Lucas, il a 9 ans et est un être humain extrêmement dépourvu. Sa famille est très pauvre, elle est à temps de galle. Les enfants ne vont pas à l'école, ils sont analphabètes. Les parents ne bougent jamais. Lucas manque de coordination motrice et a beaucoup de mal à comprendre les règles les plus simples de jeu. Le jeu était de sauter à la corde. Une fille était clairement beaucoup plus agile que les autres enfants et menait le jeu. Lucas, avec son manque de coordination, était traité avec mépris par les autres enfants. Nous avons proposé à la fille la plus adroite de devenir l'enseignante et d'apprendre aux autres à sauter la corde. Avec ça, le jeu s'organise. Lucas réussit à être accepté, mais non à sauter. Nouvel essai. Son regard s'adresse à moi, qui à ce moment-là tourne la corde. Comme si j'avais vu dans ses regards un appel, j'ai décidé de le soutenir. Avec nos yeux accrochés, Lucas a sauté 22 fois la corde. Il est acclamé par les enfants. Notre regard a créé des bras. Le sentiment était que son corps était soutenu par nos yeux. Plus que soutenu, le corps de Lucas semblait s'être organisé au cours de cet épisode. Cela mène à une expérience de soutien où il se rend subjectivement capable d'une action créative et d'une victoire applaudie. Le premier pas a été la reconnaissance de la plus grande adresse de la fille, ce qui a rendu possible un ordre n'excluant personne. Lucas passe alors à la condition d'inclus, même qu'occupant la place du maladroit. Le deuxième moment, quand il cherche mon regard, est déjà la conséquence de la reconnaissance précédente. Avec son lieu assuré, il peut chercher dans notre regard la qualité, et il la trouve. De nos jours, il ne va plus à la maison de l'arbre, mais il va à l'école. Je le vois souvent sur la colline, jouant au football et au bill avec d'autres enfants. Il me regarde, mais il ne semble pas me reconnaître. Le deuxième garçon s'appelle Mateus. Il a 12 ans et est un être humain extrêmement violent et désespéré. À plusieurs reprises, il a dit qu'il ne venait à la maison que pour la détruire. Mais il ne manque pas de venir. Partout où il va, son comportement est destructeur. Dans son discours, il mélange la violence des armes à la référence à une activité sexuelle également violente. Il se fait renvoyer des cours de football et de capoeira. À l'école, il passe la plupart du temps hors de la salle de classe, car les enseignants ne le supportent pas. Il sait à peine lire et écrire. Et il fait exprès de monter tout cela dans la maison de l'arbre. Et nous faisons exprès de lui survivre. En général, il arrive en mettant en scène ou en mettant en acte une invasion comme si nous étions une faction rivale. Les autres enfants souvent les suivent, ce qui provoque un chaos dans la maison. Mais il continue à venir. Sa constance construit peu à peu un lien transférentiel. Entre Mathéus et nous, une histoire se fait à partir des réponses que chacun des accueillants donne à sa manière au désespoir du garçon. Un groupe jouait aux cartes, d'autres jouaient à d'autres choses. Il arrive, reconnaît l'ambiance agréable dans laquelle nous sommes plongés, s'empare des cartes posées sur la table et détruit le jeu. J'ai dit, « Mon Dieu, Mathéus, jamais de ma vie j'ai vu quelqu'un aussi jaloux. » Je continue, « On prend une chaise, on la met ici à côté de moi pour que toi aussi tu joues, tu veux ?» Il s'assoit et commence à chanter des funk qui sont des musiques typiques de favela, plein de gros mots. Je fais un petit bruit, et de la main, je lui fais signe, comme si c'était les sons et les gestes pour faire dormir un bébé. Je ne le regarde pas. Bref, un son qui évoquait le silence. Il arrête de chanter. Le jeu continue. Il revient au gros mot. Je répète. Il s'intègre finalement à l'activité et me demande alors si je suis nouvelle à la maison. Je lui dis que non, que je travaillais dans d'autres maisons. Il me dit fièrement en me regardant dans les yeux. Ici au chapeau, c'est très bien, n'est-ce pas? Le jeu finit. Sa mère l'appelle d'en bas. Il y va et en revient bouleversé. Il jette tout le jouet comme s'il était des grenades. Je sais de parler, impossible. Je lui dis que comme ça, ce n'est plus possible. Que je commence à m'énerver, qu'il vaut mieux qu'il sorte dehors et qu'il revienne une fois calmé. Une autre accueillante se rend compte de la situation et propose « Pourquoi n'allez-vous pas discuter tous les deux en dehors ?» Il dit qu'il ne veut pas me parler, mais il s'approche de moi, la bouche pleine de petites pièces de caoutchouc qu'il coque comme un bébé. Il s'allonge dans les petits toboggans et ressemble vraiment à un bébé installé dans un transat. Je lui dis, ici à la maison de l'arbre, tu sais, le bébé doit venir avec leur maman. Je vais donc appeler la tienne pour qu'elle vienne nous rejoindre et reste avec toi. Je l'appelle et je leur dis que Mathéus me semble trop malheureux. La conversation se poursuit. Quand elle s'achève, la mère descend et il reste à jouer avec les autres enfants, ne faisant appel à mon attention. Il y a une première remarque sur la jalousie, la phrase « Jamais de ma vie j'ai vu » le place non seulement dans la situation de quelqu'un visible, mais lui accorde aussi un lien dans ma propre vie. Et il y est reconnu comme un être d'affect. Puis après, nous avons un geste de la main. Répéter les sons et les gestes typiques pour endormir un bébé en l'aidant à se livrer au sommeil. Moment où la mère s'offre un soutien, source de réconfort narcissique, permettant au bébé d'être en paix dans sa solitude. Et là, quelque chose de nouveau surgit, déplacé vers moi. Vous êtes nouvelle ici, bien qu'il me connaissait déjà très bien. Ce qu'il y a de nouveau là, c'est l'investissement narcissique, puisque à ce moment, il peut bien parler fièrement de ce qui est à lui. C'est très bien ici au chapeau, n'est-ce pas? Comme si j'avais eu la bonne chance d'être là, dans son endroit dont il juge si bien. L'intervention de l'autre accueillant, qui me voyant énervé, suggère que nous sortions tous les deux de la maison pour discuter, est elle aussi importante. Elle nous accueille tous les deux dans sa tranquillité, nous fait partenaire dans une situation qui semblait manquer des solutions partageables et pour laquelle elle trouve une issue, Mathéus et moi, une paire. Et comme ça, surgit le bébé vorace qui de sa bouche tout détruit. Désormais, il peut disparaître de notre vie pour jouer et ensuite s'en aller sans confusion et souffrance, ce qui se passe très rarement. Bien, Voilà deux de mes rencontres à la Maison de l'Arbre. J'espère que dans ces cours reçus, j'ai pu vous transmettre au moins un peu sur nos enfants et notre travail. Merci beaucoup.
Oui. En tout cas, tu nous as, comme Irène tout à l'heure, donné envie de vous écouter davantage. Mais la montre fait son travail et je passe la parole à Jalil, mais on aura l'occasion de te réentendre une autre fois. Jalil.
Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, en particulier Catherine et Alain Vanier, qui m'ont donc invité à venir à cette belle manifestation si bien organisée. Donc je suis invité pour parler donc à partir du Maroc, donc invité à partir de ma différence, mais aussi, j'entends, à partir de ce en quoi nous nous ressemblons. Voilà, donc je vais vous parler du Maroc. Le Maroc où François Dolto a séjourné, on le voit dans sa correspondance, elle a visité plusieurs villes. Le Maroc où donc elle aurait voulu faire ses études de médecine, j'ai vu ça dans sa correspondance. Et le Maroc où a séjourné et travaillé celui qui fut son analyste, René Laforgue. Je ne vais pas parler de ça ici, mais c'est important à souligner pour la question de la transmission, parce que pour avoir travaillé beaucoup sur la forgue, on trouve chez lui des intuitions cliniques très très fortes qu'on voit et qu'on retrouve chez François Dolto. C'est tout ce que je dirais de ça, mais je tenais à le souligner. J'ai choisi aujourd'hui pour vous parler de l'actualité de Dolto et de l'apport de Dolto, comme me l'a demandé Alain Vanier, au Maroc. J'ai choisi de vous parler de la question de l'adolescence, donc puisque c'était son dernier message, et en particulier avec le livre qu'elle a écrit avec Catherine Dolto, « Paroles pour adolescents ». Bon, je suis parti donc de ce livre, et avec la notion qu'elle décrit du complexe du homard, donc pour m'interroger d'abord sur la question de l'adolescence chez nous. La question de l'adolescence qui est un concept qui n'existait pas en tant que tel, ou du moins qu'on ne trouvait que dans la littérature classique et qu'on appelle morahakar pour ceux qui connaissent l'arabe ou ceux qui voudraient l'apprendre ou voudraient entendre d'autres signifiants, parce que c'est ça la transmission, c'est interroger les signifiants de la culture, c'est pas à partir de la culture mais des signifiants. Donc c'est intéressant parce que en partant du mot morahakar, on trouve des notions qui sont que ça désigne la notion d'atteindre quelque chose. Atteindre, le boulour, c'est la maturité et c'est la puberté. Donc déjà, on voit que dans la notion, dans la définition même, il y a ce décalage temporel qu'on décrit de l'adolescence entre, comme ça, le fait que l'adolescent est propulsé dans un corps d'adulte, mais qu'il est en même temps pas encore dans la maturité. On trouve ces choses dans la langue arabe et on trouve aussi la notion dans la même racine, parce que c'est ça, les mots arabes comprennent des racines qui renvoient à une pluralité de significations. On trouve la notion d'épuisement et de surmenage. Bon, voilà, ce sont des questions qui interrogent justement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la question de l'adolescence. Alors, la question de l'adolescence, pourquoi ça, le travail de Dolto m'a beaucoup interpellé? Ben d'abord parce que l'adolescence est un phénomène récent, bon encore plus récent au Maroc qu'en France, et que c'est un phénomène social, voilà. Et ça pleinement, c'est un concept moderne, c'est un concept qu'on ne peut pas isoler du contexte social. Alors donc concernant certains points que je vais comme ça détailler de l'apport de Dolto quant à l'abord de l'adolescence. Je voudrais dire quand même que je suis parti de l'étymologie, mais pour dire que ce mot, en fait, on ne l'emploie pas. Ce qu'on emploie chez nous, c'est le mot « cheb » qui veut dire « jeune ». Ce qui veut bien dire que la notion de « cheb », donc de « jeune », elle est tout à fait extensible et c'est tout à fait définissable pour l'adolescence. C'est-à-dire qu'on va de 13 à 25 ans. Et puis on sait aujourd'hui qu'il y a des vieux adolescents. Et Dolto nous a bien prévenu contre le fait que beaucoup d'adultes revivent des nostalgies d'adolescents. Hein. Et voilà, donc la notion de jeune, c'est quelque chose, c'est une notion extensive de la notion d'adolescence. Alors, pour dire que s'il est récent, en tout cas, les parents sont déroutés. Ils sont pris de court au Maroc par rapport à l'adolescence. On entend tous les jours dire, mais nous, on n'a pas eu ça. Mais oui, nous, vous, c'est vous, et votre enfant, c'est votre enfant. Et l'apport de Dolto nous aide à les aider et nous aide nous-mêmes avec un certain nombre de repères que je vais ici dire. D'abord, considérer qu'avec l'adolescent, il y a une implication. Ça, c'est fondamental. Je veux dire qu'on n'est pas... On n'est pas dans un travail classique de consultation dans lequel, bon, on va dire qu'est-ce qui vous arrive, mais on a la notion d'implication. Pour repérer qu'il y a la question de la perte dans l'adolescence, la question de la perte qui est des deux côtés, que l'adolescent, il a à faire le deuil de l'enfance et que pour les parents, il y a une perte de plaisir, de jouissance, donc pour cette période-là. Un des maîtres mots de Lacan. Oui, ben oui, il y a Lacan derrière tout ce que je dis. Un des maîtres mots de Dolto, bien sûr, c'est la question de la confiance. Alors bon, bien sûr, les parents sont souvent désemparés, sont souvent avec la peur de l'échec de leurs enfants, avec évidemment l'inquiétude grandissante de l'avenir, des incertitudes, des identités. Et d'un avenir entre une modernité et une tradition, comme on aime bien dire chez nous, ben, la question de la confiance, elle est très très importante, hein, que Dolto a enseigné, hein, c'est-à-dire que on est là pour dire que d'abord la question de la révolte, elle est tout à fait normale, et que sans la révolte, eh bien, on va se trouver comme dans la tradition à dire bon, maintenant tu es un homme. Et ça veut dire il faut que tu travailles. Alors voilà, donc soit il n'y a pas d'adolescence, soit des enfants qui sont propulsés directement dans le monde adulte. Et ça évidemment, je veux dire, ça n'est plus l'actualité. D'autres questions concernant l'apport de Dolto, ben, évidemment, c'est toute la question de l'apprentissage. Au Maroc maintenant, il y a, et en particulier dans les milieux démunis, et même dans les milieux qui ne le sont pas, il y a un rapport à l'élitisme, hein, et qui fait qu'il y a de l'apprentissage forcé, le tout éducatif. Bon, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous sommes amenés à travailler, à prévenir les parents. Et dernier point, il y a celui de la question de la prévention. Avec Dolto, on a appris que la prévention... qu'elle-même, elle a voulu donc apporter tout ce qu'elle a appris, entendu de la souffrance pour prévenir un certain nombre de choses. Et les adolescents aujourd'hui au Maroc sont exposés aux questions du sida, de la délinquance, les prises de risques et tout ce qui concerne aussi ce qu'on appelle les nouvelles addictions, etc., que ce soit les drogues ou que ce soit le phénomène d'Internet, etc. La prévention, je finirai là-dessus, c'est très important parce que d'abord au Maroc, nous avons très peu de thérapeutes pour enfants. Nous avons très peu de structures pour enfants. Bien que le Maroc se développe à grands pas dans ce qu'on appelle la modernité, et la question de l'enfant est restée et de l'adolescent est restée le parent pauvre. Ben oui, ça faisait pas partie des urgences. Donc la question pour ça, la question de la prévention est très importante. Alors, pour conclure, je dirais que vous voyez à travers ce que je vous dis que, au fond, la question de l'adolescence, elle déjoue les classifications que nous avions autrefois. On avait des classifications sur, par exemple, ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas. On avait des classifications sur ce qui est propre à certaines catégories sociales et à ce qui ne l'est pas. Les adolescents de différents milieux sociaux peuvent avoir les mêmes modèles. Quand on pense à la musique, quand on pense aux films, quand on pense aux habillements, ils peuvent avoir des mêmes modèles. Ils peuvent fréquenter, disons, des lieux de fête différents. Ils vont fêter l'Aïd, le Mouloud, ou bien Noël, le Réveillon ou Halloween. C'est pour dire au fond, et pour rejoindre ce que j'ai dit au début, qu'en étant un phénomène récent, moderne, eh bien, la spécificité de l'adolescence, c'est leur époque. Alors, évidemment, qu'apporte la psychanalyse dans tout cela? Ben, c'est de repérer que c'est pas une société schizophrène, comme on dit quand on est tradition ou modernité. C'est, en tant qu'analyste, de repérer la question des identifications. C'est-à-dire que les identifications font que, soit on répond à un surmoi parental et on va dans les traditions, soit on va vers des nouvelles identifications en coupant avec les idéaux, l'idéal du moi et le moi idéal, et en trouvant des nouvelles identités et tout ça. Bon, voilà ce que je voulais vous dire du Maroc, pour dire, au fond, vraiment que c'est un phénomène récent, mais actuel, moderne, et en tout cas de l'époque, et qui concerne majoritairement la société, puisque c'est une société à majorité de jeunes, et que donc c'est l'avenir.
Merci, Jalil. Comme vous voyez, chacun de nos intervenants a entendu notre invitation là où il était et là où il travaille et là où il est interpellé dans son quotidien. Je vais passer la parole à Agustinho Dos Reis Montero, qui va nous parler de son propre point de vue. Et je te passe la parole, Agustinho.
Mesdames, Messieurs, tout d'abord, quelques mots sur l'intérêt porté à Françoise Dolto dans mon pays, le Portugal. Si les traductions de ses ouvrages sont un premier indicateur de l'influence de sa pensée chez nous, on en trouve une douzaine de traduits, dont quelques-uns sont épuisés. Une chercheuse et formatrice dans le champ de l'éducation de l'enfance, qui a été d'ailleurs présidente de l'Association des professionnels de l'éducation d'enfance, m'a appris que Françoise Dolto n'occupe pas encore une place importante dans les bibliographies des cours de formation, mais, et je la cite, « Pour nous toutes, Françoise Dolto a été une référence. Ses ouvrages ont été très importants, surtout pour nous aider dans le travail avec les parents des enfants. » En novembre 90, moi-même, j'ai publié dans une revue d'éducation un dossier sur Françoise Dolto avec la précieuse collaboration de Claude Schauder. Pour ce qui est des pays latino-américains de langue espagnole que je connais, outre le Brésil, malgré le nombre d'ouvrages de Dolto traduits en castillan, il y a d'une manière générale un problème d'actualisation des bibliographies de toutes sortes, comme le regrettait à propos de son propre pays une enseignante tunisienne. L'ardentissement de la pensée de Françoise Dolto dans le champ de l'éducation ont été reconnus par le Bureau international de l'éducation au sein de l'UNESCO, qui l'a inclus en 2000 dans la Galerie universelle des penseurs de l'éducation. Pour moi, qui m'occupe du droit international de l'éducation, Dolto nourrit ma théorisation ainsi que mon enseignement sur l'éducation en tant que droit de l'homme. Dans les quelques minutes dont je dispose, je voudrais vous proposer à peine trois réflexions concernant l'actualité de sa pensée par rapport au droit à l'éducation, ayant comme pivot le concept de reconnaissance, d'ailleurs un mot souvent prononcé au cours de ces journées. Première réflexion. Les droits de l'homme constituent une éthique de la reconnaissance dont le droit à l'éducation fait partie. Reconnaissance est devenue un mot de rapport de nombre de luttes et un mot programme d'études et de débats transdisciplinaires. Les significations les plus fréquentes du verbe « reconnaître » dans son usage quotidien sont les suivantes. Admettre, remercier, identifier, valoriser. Philosophiquement, la signification dominante est celle de valoriser. On reconnaît la valeur de quelqu'un. La valeur d'un être humain est discernable à trois niveaux principaux. Elle peut concerner son être, sa valeur morale, substantielle, son faire, sa valeur fonctionnelle, instrumentale, et son paraître, sa valeur ajoutée d'attrait séduction. Cependant, si un être humain vaut tout d'abord pour ce qu'il est, parce qu'il est humain, il ne l'est que s'il est reconnu comme tel par d'autres êtres humains. C'est pourquoi être reconnu est un besoin, désir vital. On peut distinguer aussi trois niveaux d'expression et institution de reconnaissance. Le préjuridique, le juridique et le post-juridique. La compassion est l'expression la plus universelle de la reconnaissance au niveau préjuridique, c'est-à-dire motivée par des sentiments spontanés en deçà du pouvoir contraignant du droit. Sa formule la plus ancienne et répandue est la dite règle d'or, dont l'une des versions est la suivante. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Les droits de l'homme sont l'institution la plus élevée de reconnaissance au niveau juridique, c'est-à-dire soutenue par la force du droit pour en garantir la jouissance à tout être humain. Dans les traités du droit international des droits de l'homme, les États qui les ratifient reconnaissent les droits qui en sont l'objet et s'engagent à la mettre en œuvre. L'amour-passion est l'expression la plus intense de la reconnaissance au niveau post-juridique, c'est-à-dire relevant de sentiments électifs par-delà le bien et le mal. Nous aimons dans la mesure où nous nous aimons d'autant plus que nous avons été et sommes aimés, et chacun désire être unique pour quelqu'un qui soit unique pour lui. En conséquence, il existe un droit à la reconnaissance qui revient à la reconnaissance des droits de l'homme. Les droits de l'homme constituent une éthique de la reconnaissance, de la dignité absolue et des droits de tout être humain simplement parce qu'il est membre de l'espèce humaine. La reconnaissance interhumaine est un bien immatériel fondamental, individuel et collectif, dont la jouissance ne va pas sans d'autres biens immatériels aussi bien que matériels. L'éducation étant reconnue comme un droit de l'homme, le droit à l'éducation a une signification éthique. L'éthique du droit à l'éducation est une éthique de la reconnaissance de l'intégrité de son contenu normatif qui se laisse résumer dans les principes suivants. Primauté de l'intérêt supérieur de l'éduqué, respect de la dignité et de tous les droits de l'éduqué, accueil et valorisation de la diversité des éduqués, plein développement de la personnalité humaine, priorité de l'éducation aux droits de l'homme, responsabilité politique et pédagogique conséquente. Les enjeux de la reconnaissance dans l'éducation sont nombreux. Ils prennent racine dans la famille, au tréfonds de l'inconscient des parents et des enfants, et continue dans l'école, comme Françoise Dolto l'avait mis en lumière. Deuxième réflexion. La pensée de Françoise Dolto est soutenue par la valeur de la reconnaissance et tournée vers l'éducation comme enjeu séminal de la reconnaissance humanisante. Dolto était animé d'une très profonde préoccupation éthique fondée dans sa foi dans l'humain et sa passion du sujet. C'est une éthique de la reconnaissance de l'enfant comme sujet, sujet de désir de sa conception, désir de communication et sujet de droit. L'enfant se sent reconnu comme sujet au travers de l'amour que les parents lui expriment, des paroles qu'il lui adresse et d'une façon générale de la manière dont il est traité dans les institutions de l'éducation. Dolto a dit que la castration ombilicale de la naissance et l'inscription de l'enfant à l'état civil comme un nouveau citoyen, aussi bien que plus tard la castration anale, impliquait une castration des parents. On pourrait qualifier la reconnaissance de l'enfant avec ses droits et l'ensemble des changements d'attitude et de comportement que son développement demande aux parents comme une castration juridique. La révolution des droits de l'enfant, consacrée et universalisée juridiquement par la Convention relative aux droits de l'enfant, ne coupe pas la tête des pères, comme Balzac l'a dit de la Révolution française, mais oblige les parents à la construction, à la castration juridique qui consiste à renoncer soit au traitement de leurs enfants comme des possessions domestiques, soit à une éducation clonage. Pour Dolto, l'éducation était une affaire d'humanisation de l'enfant, dont la plus haute expression est la capacité d'autonomie et de responsabilité. C'est une mission commune à la famille et à l'école qui, par ailleurs, ont des missions spécifiques. Celle de la famille est d'entourer l'enfant d'un amour sécurisant, respectueux de sa dignité et promotionnant de ses droits. Celle de l'école est de soutenir et nourrir son désir de savoir, sa pulsion épistémologique qui est la pulsion la plus fondamentale. Pourtant, les réalités de l'éducation toujours dominantes sont encore bien loin de là. C'est pourquoi Dolto n'a pas ménagé ses critiques de l'éducation familiale et de l'éducation scolaire, dont la radicalité peut surprendre. Elle se résume dans un mot, pervertissante, un terme qu'elle utilise à plusieurs reprises, soit comme adjectif, soit comme verbe. Est pervertissante l'éducation qui traite les enfants et les jeunes comme des animaux domestiques, une expression qu'elle utilise aussi fréquemment, et des animaux scolaires, c'est-à-dire comme des objets d'éducation, plutôt que comme des sujets de leur droit à l'éducation. Troisième et dernière réflexion, conformément à l'éthique du droit à l'éducation, dont le principe traverse les écrits de François Dolto, le droit à l'éducation est droit à l'éducation nécessaire, légitime et possible. Dans les années 60, Jacques Lacan enseignait « Aimer, c'est vouloir donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Il est tentant de rapprocher de cette définition célèbre une affirmation de François Dolto en 1974, se référant à la plupart des éducateurs. François Dolto disait « Nous donnons ce que nous n'avons pas. » Elle aurait pu ajouter « À qui n'en veut pas ?» En fait, comme l'a dit Freud, il n'y a pas de bonne éducation. Commentaire Dolto, c'est-à-dire que le jeune ne la trouvera jamais bonne. Voilà le paradoxe et le drame de l'éducation. Les éducateurs désirent donner ce qu'ils estiment être la bonne éducation à des éduqués qui ne la trouvent pas bonne. Néanmoins, les éducateurs n'ont pas de bonne éducation à donner. Il n'est pas nécessairement bonne l'éducation qui plaît aux éduqués. Il n'empêche que les adultes ont l'obligation d'éduquer et que les enfants et les jeunes ont droit à une éducation qui soit bonne. Le critère de la bonté de l'éducation est dans une troisième instance où l'humanité assume la responsabilité pour elle-même qui n'est pas une responsabilité en cercle vicieux mais une responsabilité en flèche vertueuse. À la lumière de la pensée de Dolto, qui nourrit les valeurs et le principe éthique du droit à l'éducation, bonne est l'éducation nécessaire, légitime et possible. Nécessaire est l'éducation qui consiste dans la protection, les soins, les interdictions et tous les apprentissages dont les enfants et les jeunes ont besoin pour leur humanisation, leur subjectivation et l'épanouissement de leur personnalité. Si elle implique l'exercice de l'autorité, cela ne confère ni aux parents et autres éducateurs, ni au gouvernement, aucun droit sur les éduqués et citoyens. Légitime est l'éducation respectueuse, l'intégrité du contenu normatif du droit à l'éducation. Cela implique la reconnaissance du droit des enfants et des jeunes de réagir et de se révolter contre une éducation familiale et scolaire qu'ils ne vivent pas comme un droit de l'homme, mais plutôt subissent comme un droit sur l'homme, dont la valeur centrale n'est pas la liberté, mais l'autorité. Finalement, possible est l'éducation qui cherche à répondre aux exigences de sa nécessité et légitimité comme un droit de tout être humain. Il s'agit tant du possible réel, c'est-à-dire les possibilités déjà contenues dans les progrès du présent, comme du possible idéal, c'est-à-dire ouvert au perfectionnement sans fin de l'avenir. Ainsi comprise, l'éducation ne sera pas bonne tant qu'on ne fera pas la révolution française éducative dont parlait François Zolto. Ce sera la révolution du droit à l'éducation, c'est-à-dire la révolution de la reconnaissance des enfants et des jeunes, en particulier comme des sujets de la plénitude éthico-juridique de leur droit à l'éducation. Je vous remercie.
Bien, merci Agostinho, et particulièrement merci pour ce concept de castration juridique auquel nous aurons certainement l'occasion de revenir lors d'un débat où nous serons effectivement plus disponibles et où nous aurons l'occasion d'avoir plus de temps pour échanger avec chacun d'entre vous. Je me tourne vers ceux qui ont la montre. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Non. Alors, on n'a malheureusement pas le temps pour les questions, mais ce n'est pas grave, on les garde pour la prochaine fois, puisque, comme ça a été réclamé tout à l'heure, nous aurons l'occasion de nous revoir pour continuer ce travail. Voilà, je vous remercie, et je remercie tout particulièrement nos amis qui sont venus de loin. Merci à vous.